Comment choisir une maison de retraite ? Toute la journée, on vous aide donc sur France Info. Notamment vous, Patrick Lelong, bonjour.
Bonjour.
Du service économie de France Info avec David Jacquet, vous publiez ce guide de la dépendance chez JTL Éditions. Vous êtes allé visiter 8000 maisons de retraite et vous les classez, vous les notez même. 25 établissements obtiennent d'ailleurs la meilleure note, 10 sur 10, c'est un peu comme en classe. Avec nous également Rosemarie Van Lerberg, la présidente du groupe Korian, bonjour.
Bonjour.
Un des plus grands groupes privés dans le secteur en France, vous gérez 162 établissements. Je vais rappeler rapidement juste quelques chiffres, on ne va pas se noyer dedans, mais c'est important d'avoir le tableau. En France, 1 200 000 personnes ont déjà plus de 85 ans. Dans 10 ans, plus de 2 millions de Français seront dans cette situation. Autant dire que le choix d'une maison de retraite est décisif. À quel âge entre-t-on en moyenne en maison de retraite, Patrick, aujourd'hui ?
Bien de plus en plus tard, hein, généralement vers 85,
un petit 83
peu, 83
ans.
83, oui, 83-85 ans. Donc, contrairement à ce qui se passait avant, effectivement, on retarde l'arrivée en maison de retraite.
Et on parle là, Rosemarie Van Lerberg, de maison de retraite médicalisée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point ?
Tout à fait. Médicalisé, ça veut dire qu'il y a une prise en charge non seulement de l'hébergement, mais des soins. En effet, comme ça vient d'être dit, aujourd'hui, les personnes âgées restent le plus longtemps possible chez elles. C'est leur souhait, c'est encouragé par les pouvoirs publics et c'est très bien. Et donc, elles viennent en maison de retraite, vous l'avez dit aussi, lorsque le maintien à domicile n'est plus possible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles arrivent chez nous de plus en plus âgées, de plus en plus fragiles, de plus en plus dépendantes, de plus en plus polypathologiques. Ce qui veut dire que pour nous, le sujet, c'est comment les prendre en charge, à la fois au sens de les soigner, hein, mais aussi prendre soin sans devenir l'hôpital, puisqu'elles ont droit à un univers chaleureux et le plus proche possible de la maison.
Et c'est donc une démarche globale. Patrick, dans les choix à faire, le premier d'entre eux peut-être, c'est le public ou le privé ou l'associatif, hein, les trois grands domaines. Comment ça se répartit d'ailleurs entre les établissements aujourd'hui ?
Alors à peu près 60%, 65% du parc des maisons de retraite médicalisées est dans le relève du secteur public, 20% à peu près dans le secteur privé, et ce qu'on appelle le secteur associatif, ça représente aussi 20%. Alors le choix, à mon avis, ne se fait pas vraiment en fonction du public ou du privé, il se fait en fonction du lieu, puisqu'on a envie, finalement, pour voir ses parents, d'être le plus proche possible de son domicile.
Donc pour vous, Rosemarie Van Lerberg, non plus pas de différence fondamentale entre un établissement public et privé ?
Ah ben la différence, c'est quand même que le privé commercial n'a pas de subvention. Donc il est généralement plus cher.
Et on
que...
va parler du prix,
voilà,
élément
bien entendu,
déterminant,
bien
évidemment.
Entendu.
C'est pour ça que je posais quand
bien
même
sûr,
la question
mais vous
de
avez
cette
raison.
Distinction.
Vous avez raison.
Mais sur la manière dont on s'occupe des personnes âgées, est-ce qu'il y a une différence ?
Ah, moi, je crois qu'il y a plus de différence entre certains établissements dans chaque catégorie qu'entre les établissements publics et privés. Hein, moi, je me suis occupée de l'APHP.
Et oui, l'assistance publique des hôpitaux de Paris.
Paris.
Donc vous avez la double expérience du privé et du public.
Tout à fait. Et je dois dire qu'à l'assistance publique, il y a des établissements gériatriques comme Bretonneau qui sont tout à fait admirables dans leur prise en charge, hein, et donc très proches de ce que nous essayons de faire. Voilà, donc la différence est moins public-privé que la différence effectivement du projet d'établissement. Et donc si j'ai un conseil à donner aux familles, puisque c'est votre objet, c'est vraiment d'interroger lorsqu'ils vont dans une maison de retraite, d'interroger la personne qui les accueille sur mais c'est quoi le projet d'établissement ? Qu'est-ce que, voilà, c'est quoi votre projet ? Vous parliez tout à l'heure des petits plaisirs. Je crois en effet que, en particulier, les animations, elles doivent être de plus en plus thérapeutiques, c'est-à-dire qu'elles doivent non seulement occuper les personnes, mais être destinées à maintenir et développer les capacités.
Là, on est bien au-delà des services de base qui consistent à loger, à nourrir,
bien sûr,
à soigner.
Bien sûr, absolument. Il y a d'ailleurs une médicalisation croissante, hein, puisque aujourd'hui, si je prends Korian, plus de 55% des gens sont atteints de la maladie d'Alzheimer.
55% des personnes que vous accueillez dans vos établissements sont touchées par Alzheimer.
Ouais. Et ils
plus d'un sur deux.
Ah oui, et ils ont en moyenne 6 pathologies, c'est-à-dire qu'ils sont cardiaques, ils ont des problèmes pulmonaires, etc. Donc, si vous voulez, la prise en charge, c'est une prise en charge comme à l'hôpital, des soins directement, mais aussi du prendre soin, c'est-à-dire qu'au-delà d'être capable de donner des médicaments, de soigner au sens classique du terme, il faut apporter ce confort aux personnes et aussi, je le répète, essayer de retarder au maximum la perte des capacités. Donc, c'est l'ensemble de l'établissement qui doit être formé.
Il faut absolument qu'on parle du prix. Pour beaucoup de familles, c'est le problème numéro un. Patrick Lelong, combien ça coûte aujourd'hui une maison de retraite et une place en maison de retraite?
Alors, ça coûte en moyenne, enfin entre 90 et 100 euros par jour pour le privé.
Le prix moyen. Oui, non, le prix moyen de Korian, c'est 72 euros. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'en région parisienne, c'est beaucoup plus cher à cause du prix du foncier.
Donc, il y a d'énormes différences entre les régions et entre les établissements. Mais vous maintenez votre moyenne, Patrick Lelong?
Oui, parce qu'il y a des cas extrêmes. Hein, donc
ça fait combien par mois, à peu près, si on est dans le privé et si on est dans le public? Donnez-nous les deux chiffres.
Ratisser large, si vous voulez, ça fait entre 1600 et 3000 euros par mois. Donc, vous voyez, c'est gigantesque. Et c'est d'autant plus gigantesque que la retraite moyenne, la pension de retraite d'un homme, parce que d'une femme, c'est encore plus bas, est de 1200 euros. Là, il y a un vrai problème.
Oui, et là, je voulais simplement dire qu'à Paris, le problème se pose particulièrement, puisque à la PHP dont je parlais tout à l'heure, qui est public, donc qui n'a pas à payer le foncier, le prix de journée d'hébergement est de 77 euros. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça que nos concitoyens n'acceptent pas. C'est que lorsque le parent est à l'hôpital, hein, en soins aigus ou de suite, il paye juste le forfait hôtelier, moins de 20 euros. Et puis, quand il ne peut plus rentrer chez lui, tout d'un coup, il reste souvent dans le même établissement, qu'il soit public, notamment à la paix, c'était flagrant. Et tout d'un coup, on lui fait payer donc 77 euros. Pourquoi? Parce qu'on passe du domaine sanitaire, pris en charge par la Sécurité sociale, au domaine médico-social, où la prise en charge de la Sécurité sociale est faible, finalement, puisqu'il y a prise en charge de la Sécurité sociale, mais elle ne porte que sur les soins directs, c'est-à-dire le coût des infirmières et des aides-soignantes. Mais si vous voulez, le coût des personnels administratifs, du directeur, de sa secrétaire, de l'hébergement, de l'amortissement, il est laissé à la charge de la personne.
Et c'est ça qui coûte le plus cher.
Bien sûr.
Il faut être riche aujourd'hui pour aller en maison de retraite?
Il faut quand même relativiser.
Parce que les chiffres que Patrick Lelong vient de nous rappeler sont assez époustouflants.
C'est vrai, mais il y a la pension moyenne qui recouvre des écarts importants. Il y a aussi le patrimoine moyen. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce qui inquiète beaucoup les familles, c'est cette idée du coût avec l'incertitude sur la durée. Or, comme les gens arrivent de plus en plus tard, il faut voir que la durée moyenne de séjour, c'est 2 ans et demi. Donc voilà, un des problèmes que les pouvoirs publics auront à résoudre avec le 5e RIS, c'est cette équation-là.
Et oui, parce qu'on va vivre de plus en plus longtemps aussi, et on sera donc peut-être amené à rester de plus en plus longtemps dans ces établissements.
Ça n'est pas sûr, parce que la bonne nouvelle, cher monsieur Marié, c'est que l'allongement de la vie sans dépendance est plus rapide que l'allongement de la vie tout court. Donc, ce qui est le plus probable, c'est que l'entrée en dépendance sera de plus en plus tardive. Donc, il n'y a pas du tout de raison de penser que la durée de la dépendance s'allongera beaucoup.
Donc, au moins, une bonne nouvelle en la matière. Patrick Lelong, quel est le premier critère à regarder quand on se renseigne, quand on va visiter des maisons de retraite? Notre invitée, Rosemarie Van Lerberg, parlait de projets d'établissement. Très concrètement, quand vous poussez la porte, vous, de ces établissements, qu'est-ce que vous regardez? Vous en avez visité 8000 pour le livre. Hein.
Alors, ce qu'on regarde, c'est un lieu de vie, hein, c'est important. Donc, il faut regarder l'accueil. Il faut se poser cette question de bon sens. Est-ce que mon père ou ma mère serait à son aise dans cet établissement? Je crois que c'est la véritable question à se poser. Le reste, ce sont des détails.
Et ne pas hésiter à poser des questions pour en savoir davantage. Je le rappelle donc, ce guide de la dépendance, JTL édition en partenariat avec France Info. Merci Rosemarie Van Lerberg, présidente du groupe Korian, un des leaders du secteur.